à lire, c'est avec Laurence, tous les deuxièmes vendredis du mois, de 11h à midi. Je vous présente mes coups de cœur et des interviews de ceux qui font le livre à Bourg et ailleurs. On se retrouve cette année pour commencer l'année, on va dire l'année scolaire, avec une sélection spécialement pour les jeunes. Et en fin d'émission, nous verrons donc quelques petits ouvrages qui sont peut-être destinés aux plus âgés de ces jeunes. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, qui fait partie, comme beaucoup de livres de cette sélection du mois de septembre, c'est La graine et le fruit. Et c'est un livre donc de la sélection du Krilge. Alors, La graine et le fruit, c'est un livre d'Alexis Jani et de Tom Tirabosco. C'est un petit garçon qui s'étonne que son grand-père, déjà vieux, plante des arbres dans son jardin. Et petit à petit, il comprend qu'il fait partie d'un cycle comme les arbres et comme tout être vivant. On voit le petit garçon grandir au fur et à mesure des pages, et il y a peu de texte au final, mais on voit aussi le grand-père vieillir, et ensuite la vie qui continue après la disparition du grand-père, que l'on comprend parce qu'il n'apparaît plus sur les pages. Ce magnifique album est à lire et à regarder, car les illustrations donnent vraiment un sens au texte, là où les mots laissent deviner trop délicatement les réalités décrites. C'est un magnifique album pour les 8 ans, à mon sens, à mesure où il explique pas mal de choses justement au niveau des cycles. Donc c'est La graine et le fruit, je vais vous en lire un petit passage, même si je ne peux que difficilement vous raconter ce qu'il y a sur les pages, puisque ce sont les images qui se donnent davantage à lire. Quand il fut très vieux, mon grand-père commença à planter des arbres. Il avait un jardin autour de sa maison. Il les planta sur la pelouse. La pelouse était souvent à l'ombre, la terre toujours humide, mais au milieu, il planta un olivier. Il aurait voulu un dattier, mais il n'en avait pas trouvé. Il planta aussi deux pommiers, une vigne, un saule pleureur et un noyer. Il n'y avait pas assez de soleil, mais l'olivier poussa quand même. Les pommiers donnèrent de petites pommes. Je me demandais pourquoi il s'occupait à planter tant d'arbres. Il était très vieux et les arbres poussent très lentement. La vigne grimpa sur le mur et descendit chez le voisin. Il était très fier de ses raisins noirs. Il ne les mangeait pas, mais il était heureux de les voir mûrs. « Encore une fois !» disait-il. Mon grand-père marchait avec des cannes. Il m'emmenait visiter ses arbres à tout petits pas. Il s'arrêtait souvent pour me montrer. Et donc, on voit en fait le jardin aussi en fonction des saisons. Et petit à petit, les saisons passent et effectivement, le vieillard disparaît. Voilà, donc c'était un passage de La graine et le fruit d'Alexis Jani et Tom Tirabosco. Vous êtes sur Radio B et vous écoutez Idées à lire. Alors, maintenant, ma sélection qui suit, c'est un tout petit livre qui s'appelle Accro. C'est un petit livre destiné aux plus jeunes de nos lecteurs. Et ce livre a été écrit par Lucille Guillaumin et Séverine Ducrot. C'est un petit livre qui permet de revisiter tous les contes avec les histoires de loups. Donc, les enfants aiment bien se faire peur avec les loups. Et là, c'est un condensé de tous les contes traditionnels où il y a donc le personnage du loup. Il y a aussi de très belles illustrations, ce qui ne gâche rien à la petite histoire. La petite histoire qui est en plus suivie d'une deuxième histoire. Donc, la première histoire, c'est Accro-loup, ou l'histoire d'un loup pas comme les autres. Je vous lis donc un extrait d'Accro-loup. Dans une forêt lointaine, trois petits cochons tournent en rond. « Loulou, où es-tu? Que fais-tu? Ce n'est pas marrant, sors de ta cachette. On s'ennuie sans toi. On veut entendre ta grosse voix. » Dans une terre lointaine, un loup grogne et tourne en rond. « Ras-le-bol de ses saucissons. Moi aussi, je veux être mignon. Je fais la grève du loup. » Dans la forêt lointaine, sept petites biquettes tournent en rond. « Maman, c'est long. Maman, je m'ennuie. Maman, il est où le loup? Maman, pourquoi on n'entend plus le loup? Maman, on peut appeler le loup? Maman, il est parti en vacances le loup? Maman, et si on partait à la recherche du loup? Dans une terre lointaine, le loup boude et tourne en rond. Ras la casquette de ses biquettes, c'est la grève du loup, un point c'est tout. Bref, le loup, vous l'avez compris, dans ce petit livre qui s'appelle Accro de Lucille Guillaumin et Séverine Ducrot, le loup n'a pas du tout envie de faire son loup terreur qu'on retrouve dans tous les contes. Le loup ici est plutôt sympathique, plutôt gentil et il a plutôt envie de s'amuser avec ses prétendues victimes. Donc c'est un album qu'on a plaisir à lire avec les enfants parce que le personnage du loup qui est censé faire peur ici amuse beaucoup.
Vous êtes sur Radio B et vous écoutez Idées à lire.
Je vais maintenant vous parler de L'hiver d'Isabelle. C'est un album jeunesse qui est lui plus destiné aux 8 voire 10 ans. Il a été écrit par Jeanne Macaigne. C'est un livre magnifique, un format A4 qui est extrêmement illustré avec beaucoup de finesse. On a l'impression, enfin pour moi, il me fait penser à des illustrations de contes russes. Et peut-être parce que tout simplement l'histoire commence dans un désert de neige. Donc Isabelle est enfermée dans une maison en plein hiver. Ses souvenirs heureux viennent l'assaillir et un spectre apparaît tout d'un coup. Je vous en dis pas plus parce que je n'ai pas envie de dévoiler toute l'histoire et c'est davantage les souvenirs, la représentation des souvenirs, la représentation du malheur qui est intéressante parce qu'elle est représentée pour mettre en évidence finalement quelque chose de figuré. L'album illustre notre difficulté à aller au-delà de son chagrin, notre façon de faire le deuil par des représentations très figurées. Et c'est un ouvrage vraiment magnifique pour aborder le deuil, la tristesse et les souvenirs et avancer. Donc je vais vous lire un passage de L'hiver d'Isabelle de Jeanne Macaigne. Sur une colline était posée la maison d'Isabelle. Personne ne savait pourquoi, mais un jour, l'hiver s'était installé là, avec ses nuits claires et ses jours froids. Isabelle était triste. Dehors, tout lui paraissait si vide. Son esprit somnolait dans le blanc de l'hiver, sa vie passait sans laisser de traces, ses souvenirs ne faisaient plus surface. Et comble de tout, chaque matin, ses rêves semblaient s'enfuir pour lui échapper avant son réveil. Pour se réconforter, elle chercha dans un tiroir quelque chose de parfumé avec des idées, un bâton de cannelle et du thé de l'été. La vapeur montait et déposait sur la fenêtre une brume glacée. Du bout de son doigt, elle fit trembler des mots imaginaires sur la vitre embuée qui se mit alors à vibrer, vibrer, vivibrer, revibrer. Quand soudain la fenêtre s'ouvre avec fracas, voilà un drôle de vent qui s'invite sous son toit. Et ce sont, à ce moment-là, l'apparition des souvenirs, mais aussi une petite fée qui fait revivre ses souvenirs. C'était donc un extrait de L'hiver d'Isabelle, de Jacques Macaigne, où le deuil, le malheur, les souvenirs sont abordés de façon très, très poétique. Idées à lire sur Radio B. Le prochain album jeunesse dont je vais vous parler s'appelle « Qui a peur de Lulu Boursouflu » de Lucille Dubici et Emma De Woodt. Donc, c'est assez amusant comme album. En fait, il se donne, il a un côté très très gourmand par rapport aux belles couleurs qui sont qui compose cet album. Et puis un personnage assez étrange qui est donc Lulu Boursouflu, une sorte de monstre avec des cornes, des yeux jaunes et un corps tout duveteux, violet. Bref, c'est un monstre certes, mais il ne fait pas tant peur que ça. Pourtant, l'histoire commence avec l'apparition de Suzanne. Suzanne qui court, qui court, qui court et qui semble courir pour échapper à un monstre. Suzanne, en fait, a perdu son chat. Elle le cherche désespérément. Et heureusement, elle va recevoir une aide particulière, et ça va être celle de Lulu Boursouflu. Alors qu'elle en a peur, en fait, Lulu est finalement un très gentil monstre. Même s'il a faim, même s'il semble vouloir améliorer le quotidien de ses repas, Lulu Boursouflu va aider la petite fille à retrouver ce chat qu'elle cherche partout depuis le début du livre. C'est une très belle histoire, originale, avec des images dans un style naïf, mais très coloré, qui plaira beaucoup donc aux 3-5 ans. Donc je vous lis un petit passage de « Qui a peur ?» de Lulu Boursouflu. Voici Suzanne. C'est une petite fille courageuse, toujours en quête d'aventure. Vous tombez justement à un moment délicat. Donc là, c'est un début immédiat. Lulu Boursouflu veut l'attraper. Le pire, c'est qu'elle ne sait pas pourquoi. Ce matin au réveil, Suzanne a cherché partout après Gribouille, son matou calinou. Ce matin, comme chaque matin, Lulu Boursouflu est partie chercher son dîner dans la forêt. Le monstre ne se risque plus à aller à l'épicerie du village pour faire ses courses. Les gens ont peur de lui. Suzanne a fouillé la maison, parcouru le jardin, elle a sifflé, appelé, appâté son minou avec ses croquettes préférées. Heureusement pour Lulu, il reste les champignons. Omelette aux champignons, quiche aux champignons, potage de champignons. Il a beau être inventif, il trouve que ça fait quand même beaucoup de champignons. Bref, vous l'avez compris, les deux histoires de Lulu et de Suzanne sont menées de façon parallèle à travers les pages jusqu'à la rencontre qui se veut être une rencontre où Suzanne a peur de Lulu Boursouflu et en fait Lulu Boursouflu va vite devenir certainement un de ses amis dans la mesure où c'est un gentil monstre qui n'a aucune envie de changer de régime alimentaire et qui préfère donc les végétaux à toute forme de viande. Voilà, c'était un extrait donc de Qui a peur de Lulu Boursouflu de Lucille Dubizy et Emma de Voot.
Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même Dambran et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de feignants, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés et puis vous êtes même pas bronzés. Sans copie à corriger, 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu es aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire racketter. 35 élèves, cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel, Bette et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet, c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin le même client me dira bande de fonctionnaires, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez moins qu'un contrôleur. Et dire que je paye pour mon gamin, il a redoublé son CE1. Vite les bulletins à remplir, 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes de temps en temps, faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler, les pauvres chéris faut surtout pas les perturber. Les programmes faut les simplifier, y'a trop de leçons, ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin, vous le connaissez, me dira bande de surpayés. Vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chèque et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 Grand Marnier. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudrait peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place. pour qu'il reste éveillé en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue. Mais bon, il avait averti, ils veulent pas de sport avant midi. Ils peuvent déjà pas fumer en classe, et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour, une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça. La sécurité de l'emploi.
C'était donc la sécurité de l'emploi des Fatal Picards, les Fatal Picards qui nous avaient fait plaisir en passant donc au Festival d'Attignat le week-end dernier et qui donc nous font une chanson qui est très thématique sur ce mois de septembre avec la rentrée et à quelque chose près, ça ressemble bien à un quotidien de prof. Donc je repars sur ma sélection de coups de cœur. Un livre qui vraiment me fait plaisir et qui apparaît maintenant, enfin dont la thématique apparaît de plus en plus sur nos étagères, et ça c'est important, c'est le livre « Les mots d'Enzo » de Mylène Mureau, Carla Cartagena, qui traite donc de tous les problèmes dys et en particulier ici de la dyslexie. C'est un album jeunesse, extrêmement bien illustré, les illustrations me font beaucoup penser à Benjamin Lacombe, mais le sujet, lui, est d'ampleur. On voit Enzo avec ses difficultés d'apprentissage, la lecture, la peur des mots, le malaise de l'enfant et enfin la sortie de chez l'orthophoniste où vraiment il est plus épanoui. Tout cela montre bien les différentes étapes que connaissent les enfants qui sont de plus en plus nombreux à vivre donc une dyslexie. Donc tout ça pour évoquer le parcours d'un dys. Je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir ce genre d'ouvrage-là dans une programmation liée à la jeunesse. Ça permet vraiment d'expliquer ce par quoi on peut passer. Donc merci aux auteurs pour cet ouvrage extrêmement brillant, Les mots d'Enzo de Mylène Mureau et de Carla Cartagena. Je ne vais pas résister à l'envie de vous en lire donc un passage. C'est le début. Le début où donc Enzo est encore en classe. Ce matin, la maîtresse a crié en rendant son cahier à Enzo. « Ce n'est pas possible, tu ne connais pas ta leçon, tu n'as pas travaillé !» Et le voilà encore puni. À la récré, il ne va pas jouer. Il doit de nouveau les recopier, ces horribles mots. « C'est pas juste !» rumine Enzo en colère. Pourtant, il les apprend, les mots que la maîtresse lui donne tous les soirs. Il y passe des heures et des heures. Ces maudits mots, il les lit et les relit, il les écrit, les recopie, les épelle, les épluche, les décortique. Hélas, malgré ses efforts, le lendemain, quand la maîtresse fait la dictée, c'est le grand vide. Quelle est la première lettre de banane? B ou D? Et le crabe avec le cartable et la cravate dans le carton? Enzo mélange tout, il ne sait plus rien. À la cantine, Quentin, le chouchou de la maîtresse, se moque de lui. Il chante une chanson où Enzo rime avec zéro. Il a peut-être raison, pense Enzo au fond de lui. À la maison, mes chaussures, je ne sais jamais où elles sont. Et quand je les retrouve, je me trompe toujours de pied. Certains jours, dans la classe, il voudrait disparaître. Quand, par exemple, la maîtresse lui demande d'écrire au tableau la jupe jaune de Julie, il ne sait plus s'il entend « je » ou « che ». Sa tête est lourde, elle va exploser. Bref, vous avez compris qu'il est bien question donc de la dyslexie dans les mots d'Enzo, de cette difficulté que les enfants ont à vivre cette différence et cette difficulté à apprendre l'écriture, à apprendre la lecture où tout se mêle dans leur tête. C'est un album extrêmement pertinent à mettre entre les mains des enfants dyslexiques pour qu'ils se retrouvent finalement en Enzo, mais aussi à mettre entre les mains des autres pour parler de la différence et du handicap, puisque c'est reconnu comme un handicap extrêmement important. Voilà, c'était donc Les mots d'Enzo de Mylène Mureau, Carla Cartagena. Idée à lire sur Radio B. Le prochain petit livre dont je vais vous parler est toujours un album jeunesse. Il s'appelle « Le grenier » de Mona Leleu. Ce petit livre fait la part belle à la créativité. Le lecteur, muni d'une petite lampe bleue, découvre sur les pages des objets invisibles à l'œil nu. Le texte devient moins important pour laisser la place aux images que le lecteur prend plaisir à illuminer. C'est bluffant. Je pourrais vous lire le texte, Bien sûr, le texte n'est pas très très important, c'est quelques mots sur une page. Mais là où ça devient passionnant, c'est avec la lumière bleue, voir des ondes, des spectres lumineux. Et pourtant, quand on voit à l'œil nu comme cela, sous la lumière de néon, l'image, rien ne se décèle. Donc le livre est fait avec certains endroits avec des encres invisibles qui apparaissent donc à la lumière bleue. Et on ne regrette qu'une chose finalement dans ce petit ouvrage muni de cette petite lampe, c'est que la lampe est une pile qui s'use finalement très 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 vite et il va falloir la changer assez rapidement parce que... On passe des heures et des heures à regarder les images, à voir tous les petits détails. Et franchement, c'est vraiment très, très agréable de tourner les pages de ce livre où rien ne se détecte et où il y a aussi des illustrations qui sont pleines d'humour. Donc voilà, ça, c'est un petit livre à découvrir et à prendre plaisir avec, pourquoi pas, sous la couette, lors des soirées qui s'annoncent plus fraîches. Donc, découvrir ce petit livre qui s'appelle Le Grenier de Mona Leleu. Je pense qu'il est destiné davantage à des enfants de 5 ans et un peu plus. Voilà, je vous le conseille, bien évidemment, sous la couette. Vous êtes sur Radio B et vous écoutez Idéalire. Margot et l'ogre d'Aurélie Coulon et Olivier Gonnet est aussi un petit album de jeunesse en format, on va dire en format carré, un format plutôt poche. Et on y retrouve une petite fille, donc Margot, qui ne manque pas de toupet, qui est à l'image de toutes ces nouvelles héroïnes de Disney et qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est capable de ne pas avoir peur, de remettre en question les monstres qu'elle peut côtoyer. Et le monstre qu'elle côtoie dans ce petit livre, c'est un ogre. C'est un petit livre donc amusant, ça permet d'exorciser ses peurs. Et puis à la fin... Parce que l'enfant n'est pas un simple auditeur passif, on lui propose 3 jeux supplémentaires pour ne pas quitter précipitamment les héros de cette histoire. Donc Margot se trouve tout d'un coup confrontée à un monstre qui est un ogre, mais cet ogre a un détail saugrenu, c'est qu'il a un petit bavoir autour du cou où il est marqué « ogre ». Et il adore, soi-disant, les enfants. Donc Margot est plutôt enthousiaste à l'idée de découvrir cet ogre, même si au départ ça la surprend un petit peu. Et ben finalement, c'est elle qui rentre elle-même dans le baluchon de l'ogre. Et l'ogre, est obligée de la faire taire parce qu'elle, elle n'a pas peur, elle parle tranquillement, elle fait sa petite vie et elle arrive chez les ogres. Donc la famille de l'ogre qui est composée de la femme de l'ogre et d'une ribambelle de petits ogrillons. Et l'ogre lui dit « Bon, moi, elle m'a cassé les pieds, mais à la limite, mes enfants n'en feront qu'une bouchée. » Et il la laisse dans la chambre des ogrillons. Et en fait, tout devient calme. Et les enfants, en fait, sont plutôt apeurés quand les parents les découvrent. Les enfants ont tous un bavoir autour du cou. Elle les a tous matés. Voilà, et ça c'est plein d'humour, c'est un petit livre vraiment bien fait, bien trouvé, bien original pour exorciser, donc comme je vous disais, les peurs, une façon de revisiter aussi peut-être le personnage de Shrek. C'est très différent quand même de Shrek, mais voilà, je pense que les petites filles apprécieront de se voir en héroïne forte, courageuse, qui n'a pas peur du grand méchant ogre. Allez, je vous lis donc un passage de Margot et l'ogre d'Aurélie Coulon et Olivier Gonnet. Soudain, elle entendit un petit cliquetis dans la salle de bain. Vite, vite, elle éteignit la lumière et cacha son livre sous son oreiller. Ça ne pouvait pas être papa ou maman, ils venaient juste de partir au restaurant. C'était sûrement papy qui était monté écouter si elle dormait et qui en avait profité pour fermer la fenêtre de la salle d'eau. Margot, qui ne perdait jamais une occasion de se lever, décida d'aller voir ce qui se passait. Peut-être que papy lui lirait une autre histoire. À pas de loup, elle traversa le sombre couloir et se posta devant la salle de bain. Il n'y avait plus de bruit. Elle mit la main sur la poignée et doucement, tout doucement, elle ouvrit la porte. Le volet et la fenêtre étaient ouverts. Les rayons de la pleine lune illuminaient la pièce. « Vas-y, appelle ton papy, crie tant que tu veux, personne ne t'entendra !» dit une voix dans la pénombre. Margot se retourna et découvrit l'immense silhouette velue et bossue d'un ogre. « Oh, ce n'est que vous » dit-elle soulagée. « Comment ça, que moi ?»« Bah oui, je croyais que c'était papy Patrick qui allait me gronder parce qu'il avait vu de la lumière sous ma porte. Il gronde fort, papy Patrick !»« Tu es rassuré ?» répondit l'ogre en manquant de s'étouffer d'indignation. « Dis donc, petit limaçon, tu m'as l'air bien sûr de toi. Sais-tu seulement à qui tu t'adresses ?»«
Ben oui, vous êtes l'ogre. »«
Quoi ? Comment ? Comment connais-tu mon nom, ver de terre sur pattes ?»«
Ben, c'est écrit sur votre bavoir. En plus, ma maman m'a parlé de vous. Ce n'est pas difficile de vous reconnaître, vous êtes tellement moche. »«
Moi ? Moche ? Tu ne t'es pas vue avec ta peau toute lisse et tes cheveux tout brillants. Je ne sais pas si je vais vouloir te manger. »«
Malheureusement pour toi, les temps sont durs. Il faut bien que je me nourrisse mes 9 enfants. » Neuf enfants, pardon.
Ils n'ont pas encore toutes leurs dents, il va donc falloir te faire cuire longtemps pour que...
On y va, dit Margot, qui était montée dans le baluchon de l'ogre, un sourire jusqu'aux oreilles. Alors ça, j'ai jamais vu, maugréa l'ogre entre ses dents pourries. Par la barbe de ma femme et les enfants, c'est plus que c'était.
L'ogre jeta le baluchon sur son épaule et se mit en route. Margot, qui avait sorti sa tête pour mieux profiter du spectacle, décida de taquiner l'ogre à propos du bavoir.
C'est quoi ce bavoir ?
Voilà, c'était un extrait de Margot et l'ogre d'Aurélie Coulon et Olivier Gonnet.
Vous écoutez Idéalire sur Radio B.
Ma sélection de ce mois-ci a donc déjà évoqué la dyslexie et nous partons sur un autre sujet extrêmement préoccupant qui est la phobie scolaire. C'est un petit livre que Fanny van der Mesch a écrit qui s'appelle « Folie » et qui est destiné aux jeunes, mais je pense qu'il parlera à beaucoup d'entre nous qui sommes passés par le collège, qui avons peut-être subi pas mal de choses au collège. Et puis, ça parlera, bien sûr, aux jeunes qui ont un petit peu peur d'entrer au collège et aux jeunes qui y sont, puisqu'on n'est jamais à l'abri de ce que la jeune héroïne Sophia dans ce livre traverse. C'est un petit livre bien écrit qui nous permet de nous mettre dans la peau de Sophia, qui est une élève de 6e. Ses écrits sont donc à la première personne, le « je », donc on perçoit davantage tout ce qu'elle ressent, et le livre est sous forme de journal intime. Sophia, petit à petit, ressent un mal-être entre ses parents qui se disputent, ses copines qui s'éloignent, et les cours qu'elle doit suivre et qu'elle n'a pas l'habitude forcément de beaucoup travailler. Elle a plutôt des facilités. En général, elle écoute les cours, elle sait tout, elle n'a pas besoin d'apprendre ses leçons. Sauf qu'au collège, ben, la méthode n'est pas la même et il faut beaucoup plus s'investir. Toutes les étapes de la phobie scolaire sont bien exposées ici pour que le lecteur en sache plus sur un mal qui touche de plus en plus de jeunes. Donc je vais vous lire un passage de phobie de Fanny van der Mesch. C'est la fin de l'année et Sophia a quitté précipitamment, c'est la fin de l'année, et en fait, elle se trouve en cours de PS, et elle n'a pas du tout envie d'y être. C'est l'horreur, pire même, à peine si j'ose me souvenir de ce qui vient de se passer. Il faut que je l'écrive pour me défouler, et aussi parce que je n'ai personne à qui en parler. Nous avions sport cet après-midi. Depuis quelques semaines, on pratique la gymnastique. Je ne suis pas vraiment très souple, mais je m'en sors de mon mieux. Célestine est la chouchou du professeur. Belle, fine, souriante, excellente en sport, elle fait même partie de l'UNSS, l'élève parfaite, quoi. Dans le gymnase, elle attire tous les regards. Elle le cherche bien, d'ailleurs. Elle adore qu'on l'entoure et être le centre du monde. Au fil des jours, elle monopolise l'espace, on dirait qu'elle aimante la classe autour de sa petite personne. Elle a de bonnes notes, est intelligente et très jolie. Elle rit d'une voix forte et un peu vulgaire. Dans la cour, Célestine traîne avec des filles plus grandes qu'elle et même avec des garçons. Quand elle n'aime pas quelqu'un, peu importe les raisons, les autres le haïssent aussi.
Par exemple, la semaine dernière, j'ai vu des élèves insulter Cynthia, une nouvelle élève. Tout ça parce que Célestine avait décrété qu'elle ne la supportait pas. Je n'ai pas osé défendre la nouvelle. Je me disais que j'avais assez de problèmes comme ça et qu'elle n'avait qu'à se débrouiller seule. Mais tout à l'heure, en sport, c'était un vrai cauchemar. Pourtant, Célestine n'en est pas la cause, enfin je ne crois pas, ou alors pas directement. Le professeur voulait qu'on monte à une sorte de grosse corde à nœuds. Le problème, c'est que je n'en ai pas la force. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais voir tous les élèves debout qui se jaugent les uns les autres, ça m'a stressée. Mes jambes tremblaient, je ne me sentais pas à l'aise. Je les regardais avec appréhension défiler les uns après les autres et grimper à la corde avec aisance. Laetitia a réussi du premier coup. Agathe a eu un peu de mal la première fois, mais les encouragements de ses nouvelles meilleures amies lui ont permis d'arriver jusqu'en haut. À l'annonce de mon nom, je n'ai pas bougé. Le prof m'a appelé une seconde fois plus fort et Célestine a crié « C'est ton tour, Sophia, allez, bouge-toi !» Tous les regards se sont braqués sur moi, comme si j'avais besoin de ça. Même Laetitia qui ne me quittait pas des yeux. Je déchiffrais dans son expression de l'amusement et une certaine jouissance de me voir dans l'embarras. Laetitia, vous l'avez compris, c'est une des amies les plus proches de Sophia. Je me suis levée, telle une condamnée montant à l'échafaud. Mon cœur battait à 100 à l'heure. En primaire, j'avais déjà connu une expérience similaire, impossible de monter à la corde. Je me souviens qu'un petit garçon s'était moqué de moi. Il m'avait raillée en insinuant que c'était normal, parce que j'étais trop lourde. J'avais été meurtrie par sa réflexion, d'autant que ce n'était pas vrai. Je m'avance donc vers la corde, tandis que les regards ne me lâchent pas d'un pouce. Le professeur parle, mais j'entends à peine ce qu'il raconte. Mes mains sont moites, je les essuie sur mon pantalon de sport, mais ça ne change rien. J'agrippe une main, bien trop basse sur la corde. Celle du professeur intervient et repositionne la mienne plus haut. Brouhaha autour de moi, on m'observe, je le sais. J'entends des rires. Un « Allez, Sophia !» venant du professeur m'extirpe définitivement de ma rêverie. Je pose ma deuxième main sur la corde et je serre. Très fort, trop fort. Au moment de vouloir lever le pied droit pour le poser sur le premier nœud, mon corps ne m'obéit pas. Ma jambe refuse de réagir et se raidit. J'ai peur. Des gouttes de sueur perlent à mes tempes. J'ai mal au ventre. « Sophia, dépêche-toi, tu n'es pas la seule à devoir passer, s'impatiente le prof. » J'essaye, rien que pour quitter cette foutue corde, pour partir loin d'ici, mais mon corps s'obstine, ma jambe demeure raide comme un piquet, lourde, ankylosée, les doigts se tétanisent autour de la corde. J'ai horriblement chaud, je n'y arrive pas, je ne peux simplement pas, c'est la panique et soudain, le trou noir. C'était donc un extrait de « Phobie » de Fanny Vandermeesche. Et je pense que la vie de Sophia, la scolarité de Sophia au collège parlera à certains d'entre nous qui ont vécu des traumatismes identiques.
We'll be right back.
C'était donc un extrait du nouvel album de Jamiroquai et cet extrait s'appelait Dr. Buzz. Donc maintenant, je vais vous parler du livre David Foenkinos qui s'appelle Charlotte. Charlotte, c'est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que je savais qu'il était très différent dans l'œuvre de David Foenkinos. Charlotte Salomon, c'est un auteur qui a beaucoup marqué David Foenkinos. Il a fini par écrire quelque chose sur elle. Et donc, c'est un personnage qui l'a marqué dans toute son œuvre. On le sent bien et on sent que cet intérêt qu'il a pour ce peintre, ce jeune peintre, est assez... nous interroge. Donc, dans Charlotte de David Foenkinos, on trouve quelque chose de très différent. L'auteur nous livre ce destin tragique, cette jeune artiste peintre juive, sa vie, ce qui a inspiré son œuvre, son amour, sa difficulté à monter et à avoir une postérité, à se faire reconnaître dans son art pendant la période nazie, sa fuite aussi en France, sa vie avec sa belle-mère, puis ses grands-parents. Bref, tout est traité comme si finalement on intégrait l'intimité de Charlotte Salomon. L'œuvre permet d'aller vers les œuvres aussi de cette jeune peintre. C'est un livre que l'on découvre sans faire de pause parce qu'on est entraîné comme ça dans la vie de Charlotte Salomon grâce à cette magnifique écriture de David Foenkinos. Donc je vais vous lire un passage de Charlotte de David Foenkinos qui raconte donc l'histoire de Charlotte Salomon et plus particulièrement sa rencontre avec l'amour de sa vie. Je vous laisse découvrir cela. Un événement majeur dans la vie de Charlotte advient maintenant. C'est un événement, c'est un homme. On ne peut pas vraiment dire qu'Alfred Volson soit beau ou laid. Certains physiques ressemblent à une question sans réponse. On sait juste qu'on ne peut pas détourner le regard. Quand il est là, on ne voit que lui. Au moment où je le recherche pour le décrire, il marche vite. En sueur, il arpente Berlin. Il doit s'occuper de sa mère malade, de sa sœur inapte au travail, mais où trouver de l'argent ? Professeur de chant, il n'a plus le droit d'exercer nulle part. Ne lui reste plus que le Kulturbund, l'association d'entraide créée par Kurt Singer. C'est la seule personne qui puisse l'aider. Toujours en retard, il pénètre enfin dans le bureau de Singer. Il balbutie quelques excuses incompréhensibles, fait des moulinets excités avec ses bras perdus dans un manteau trop large. Malgré le comique de cette apparition, Singer ne sourit pas, car Alfred est une personnalité éminente. Il est étrange et fantasque, mais son talent est immense. Il a développé des théories nouvelles sur les méthodes de chant. Il faut aller chercher la voix au plus profond de soi. Comment est-il possible que les bébés puissent crier si longtemps ? Et sans même abîmer leurs cordes vocales. Il faut remonter à la source de cette puissance, une plongée démente vers ce qui est caché en nous. Tout cela a peut-être également un lien avec la mort. Alfred charme, on a envie de l'aider, de le sauver même. Kurt réfléchit puis entrevoit une solution. La grande cantatrice Paula Salomon n'a plus de professeur. Celui qui travaille avec elle depuis si longtemps vient de renoncer. À contre-cœur, il a rompu leur collaboration. Il n'avait plus le choix. Il était menacé s'il continuait de travailler avec une juive. Leur dernier cours fut une vive brûlure. Ils se sont quittés sur le palier en silence. Quelques jours plus tard, on sonne à la porte. Ce doit être le professeur envoyé par Kurt Singer. C'est bien, il est ponctuel pour une fois. Elle ouvre la porte, lui fait signe d'entrer. Avant même d'enlever son manteau, il dit « c'est un honneur ». Avant même de dire bonjour d'ailleurs, un compliment qui fait plaisir à Paula. Les louanges se font de plus en plus rares, elle ne chante quasiment plus en public, on lui a retiré le droit d'être applaudie, mais elle doit continuer de travailler sa voix, car elle reviendra, c'est certain. Alfred marche directement vers le piano, il devance Paula comme s'il était déjà chez lui, il effleure l'instrument, puis il tourne la tête vers son hôtesse et la regarde droit dans les yeux. Il enlève alors seulement son manteau. Après un moment de silence, il se lance dans un monologue. « Vous devez m'engager, c'est nécessaire. Vous chantiez mieux avant, au début de votre carrière. La routine du succès vous aura endormi. Votre dernier disque est affreusement mécanique. Je peux vous le dire franchement, il n'a pas d'âme. Vous êtes immense, mais cela ne suffit pas. Je vais faire de vous la plus grande cantatrice du monde. Mes méthodes sont révolutionnaires, vous allez voir. Enfin, vous allez entendre. »
Il continue pendant de longues minutes face à Paula ébahie. Comment ose-t-il ? Comment peut-il débarquer et débiter tant de certitudes ? Pourtant, il n'a pas complètement tort. Paula sent que son rapport à la musique est devenu raisonnable. Que s'est-il passé ? Est-ce à cause de la situation politique ou bien du succès qui anesthésie tout ? Alors que cet homme était censé l'aider, elle perd pied. Personne ne lui a asséné autant de vérité depuis bien longtemps. Alfred prend un risque considérable. Il a absolument besoin d'un emploi. C'est un acte démesuré de s'adresser ainsi à elle. Elle pourrait le renvoyer. Qui est-il pour la juger ainsi ? Il continue à parler en arpentant le salon, les mains dans le dos. S'arrêtera-t-il jamais ? Paula veut l'interrompre, dire « J'ai compris votre propos. Elle voudrait, mais c'est impossible. » On dirait qu'Alfred relâche des siècles de mots. Il prend à cœur cette mission qui ne lui a pas été confiée encore. Paula comprend qu'elle ne doit pas se braquer. Cet homme, aussi maladroit soit-il, veut son bien. Il ne désire rien de plus que lui enseigner ses convictions. Elle lève la main pour lui faire signe de se taire. Enfin, rien à faire, il parle encore et encore, Paula ne saisit pas tout ce qu'il raconte. Il semble que nous soyons en pleine anecdote sur Bach. Enfin, il voit la main levée, alors subitement il s'arrête. Paula se sent épuisée parce qu'elle a entendu. Elle trouve pourtant la force de dire « Vous commencez demain matin, je vous attends à 10h ». Débute alors une relation intense. Chaque matin, ils se retrouvent autour du piano. Pendant ce temps, Albert soigne les malades et Charlotte se dessine elle-même aux Beaux-Arts. Elle étudie l'autoportrait. Alors, dans ce passage particulier, on nous annonce la rencontre de Charlotte et Alfred. Et en fait, cette rencontre de Charlotte et Alfred est surtout devancée par la rencontre de d'Alfred et Paula. Paula, qui n'est autre que la belle-mère de Charlotte, une femme d'un charisme assez impressionnant, hein, qui va inspirer énormément Charlotte, et qui est cantatrice, comme je vous l'ai lu dans ce passage. Donc Alfred est introduit dans le foyer par Paula, et donc Alfred, on le voit, est un homme qui ne s'embarrasse pas avec certains codes, qui est plutôt percutant, qui ne se rend pas forcément compte de ce qu'il dit et de la teneur. Il est franc, il est direct, et je crois que c'est ce qui va plaire à Charlotte, qui elle est dans son monde enfermée et qui n'attend qu'une rencontre de ce type-là. Donc voilà, c'était un extrait de Charlotte de David Fuenquinos.
Vous êtes sur Radio B et vous écoutez Idéalire.
La dernière sélection de ce mois-ci, c'est une bande dessinée pour adultes qui s'appelle « Moins qu'hier, plus que demain ». Certes, elle est sortie en début d'été, je l'ai découverte donc pendant les grandes vacances et je l'ai trouvée plutôt intéressante. Tout est dit sur la première de couverture et confirmé aussi avec l'illustration. Les planches représentent différents couples à différentes heures dans différentes situations où l'on comprend que la routine du mariage est passée par là. Routine du mariage ou de la vie conjugale, quels que soient donc les liens, que ce soit devant le maire ou de façon plus naturelle peut-être, sans tout simplement en partageant la vie de quelqu'un. Hommes et femmes en prennent de façon égale, hein, pour leur grade. Cela fait rire, grincer des dents, c'est juste. Les auteurs ont bien trouvé les différentes situations qui agacent, qui désappointent et donnent encore plus l'impression que le couple n'est fait que de solitude jointe. Ça donne pas envie de se mettre en couple, je suis désolée, mais mieux vaut en rire, hein. Donc je vous lis un petit passage de cette bande dessinée. Bien sûr, vous n'avez pas les illustrations, mais c'est quand même extrêmement intéressant. 8h42, Emeline et Philippe. Et avec Philippe, ça va ? Oui, super, j'ai enfin trouvé quelqu'un d'enveloppant, de rassurant. On partage beaucoup de choses, on lit, on va au ciné, on adore marcher dans la forêt main dans la main. On fait la cuisine ensemble, on écoute la radio, c'est une relation très tendre, très complice. Et toi, avec Bruno, ça va ? Oui, nous aussi, on s'emmerde. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Après, allez, je vous en lis encore une page. Oui, c'est donc 10h40, Valérie et Yves. Oui, bonjour, je vous l'appelle. Valérie, c'est pour toi, c'est ton boss. Là, j'ai pas le temps, dis-lui que je suis pas là. Elle me dit de vous dire qu'elle est pas là. Hein ? Mais non, ne dis pas ça. Ah, attendez, elle me dit de ne pas vous dire ça. Bonjour la complicité, je rêve. Elle me dit de vous dire bonjour la complicité, je rêve. Je vous transmets à mesure, hein, je comprends pas tout. Donc voilà, des situations où on est un peu dans l'embarras. Merci beaucoup. Il y a aussi celle de 10h59, Élodie et Pierre. Monsieur est en train de faire les courses. Son téléphone sonne et il a un message. Pense au fromage à raclette. Qu'est-ce qui nous est arrivé, Élodie? Ça, c'est l'interrogation donc, de cet homme. Avant, quand tu m'écrivais, c'était pour me dire de jolies choses. Et là, de nouveau, le téléphone sonne. Pense au fromage à raclette, jaune comme un soleil d'été. Voilà. Finalement, c'est beaucoup plus poétique, hein, bien sûr. Voilà, comme quoi le prosaïsme, le côté pratique prime petit à petit sur le couple au détriment de l'évocation des sentiments. Je vous lis aussi la planche de 13h30 de Mathilde et Ludovic. Luna, voilà, papa et moi, on a quelque chose à te dire. Vous allez divorcer? C'est quelque chose qui est peut-être un peu difficile à entendre. Vous allez divorcer, c'est ça? Dans la vie, il y a parfois du soleil, des nuages, de la pluie. Vous allez divorcer? Putain, mais c'est bon, je peux finir, oui. Bon, bah voilà, t'as tout gâché, moi qui avais tout préparé. File dans ta chambre, on t'annoncera le divorce quand tu seras moins insolente. Voilà, donc c'était des extraits de « Moins qu'hier, plus que demain » de Fab Caro, une bande dessinée sur certaines réalités de couple. L'émission est maintenant terminée. La petite nouveauté de cette année, c'est que l'émission dure un peu plus longtemps. Elle sera, plus fournie dans les mois à venir par des interviews avec des auteurs, par des découvertes aussi, toujours les gens qui font le livre sur Bourque ou ailleurs, et que j'ai envie de vous faire connaître. Et puis, n'oubliez pas que les émissions sont podcastées, et cette année, en plus de ça, l'émission sera rediffusée le dimanche suivant l'émission du vendredi de 11h à midi. Vous pourrez l'entendre de nouveau le dimanche à partir de 9h. Voilà, je vous laisse en bonne compagnie sur nos ondes, sur Radio B, bien sûr. Retrouvez toutes les émissions d'Idées à lire en podcast sur le site de Radio B, radio-b.fr.